Alors bonjour et bienvenue à cette rencontre avec l'AJAR. Je suis ravie d'être dans cette situation très particulière, de vous présenter, disons, un petit tiers, un gros quart d'auteur. C'est une situation inhabituelle. Et disons qu'il y a là, autour de cette table, une partie du collectif l'AJAR qui vient de publier le roman « Vivre près des tilleuls » dont l'auteur s'appelle Esther Montandon. Bon. Tout ça demande un peu d'explication. Vous avez peut-être lu dans la presse les nombreux articles qui ont fêté cette parution et ce phénomène particulier d'un livre collectif publié sous le nom d'une association et d'un auteur ses créateurs vont vous présenter, Esther Montandon. Donc, l'AJAR, c'est l'association des jeunes auteurs romande et roman, qui a été créée en 2012, qui réunit 18 jeunes auteurs romans, qui ont pour la plupart déjà publié un ou deux livres, qui sont les forces vives de la littérature romande d'aujourd'hui. Alors, l'AJAR, est-ce qu'on va commencer par l'AJAR? Oui, je pense. Est-ce que je vais peut-être déjà vous présenter les 5 membres qui sont autour de cette table. Il y en a d'autres qui sont dans la salle, qui vont peut-être intervenir aussi tout à l'heure, et il y en a d'autres qui sont simplement pas là, parce que 18 seraient remplis toute la salle peut-être. Alors, je vais de gauche à droite et je vous les présente rapidement, et après on va entrer dans le vif du sujet. Alors, tout à gauche, Sébastien Meyer, qui est l'auteur de deux romans policiers, « L'ombre du métis » et « Le nom du père » qui ont été publiés aux éditions Zoé. J'abrège parce que, en ce moment, ils sont là, non pas en tant qu'auteurs individuels, mais en tant que membres de l'AJAR, donc en tant qu'un 18e chacun d'un roman collectif. Guy Chevalet, qui est connu pour son roman « Cellulose » paru chez Olivier Boratel, qui est un roman burlesque sur la vie de bureau. Julie Guinan, pour Dérive asiatique aux éditions d'autre part, qui est, de petites chroniques qu'on a comparées à celles de Nicolas Bouvier, si vous voulez, c'est des récits de voyage. Je ne m'attarde pas sur leur œuvre individuelle.
Vincent Yersin, pardon.
Il y en a que je viens de rencontrer pour la première fois. Vincent Yersin, qui a publié une lettre de motivation aux éditions MSL. Lettre de motivation, plus que des curriculum vitae, ce sont plutôt des poèmes en prose et de la poésie. Et enfin, tout à droite, c'est Mathieu Rouf, parce que lui n'a pas de tréma, contrairement à moi. Donc, Mathieu Rouf pour... ça c'est un blanc. Percussion. Et pourtant, on ne parle que de ça. Bien, alors, lequel d'entre vous voudrait expliquer brièvement au public ce que c'est que l'AJAR, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait? Un porte-parole? Sébastien, Guy.
Alors, l'AJAR a été fondée en janvier 2012. À la base, on était 13, maintenant on est 18. Et l'idée a tout de suite été de faire des choses ensemble, puisqu'on n'avait pas les uns et les autres le fameux premier roman qui est le sésame pour entrer dans le monde littéraire. Et on a tout de suite embrayé avec différents projets de lecture publique et de textes écrits collectivement. On a fait des lectures à l'étranger, on a fait des lectures un peu partout en Suisse, et puis on en arrive 4 ans plus tard au projet Esther Montandon.
Alors, le projet Esther Montandon, je pense que vous connaissez tous Esther Montandon, vous avez lu un ou deux des 4 romans qu'elle a publiés. Mais Vivre près des tilleuls était une œuvre inédite. Alors, Esther Montandon, qui veut nous en dire plus sur elle? Julie?
Esther Montandon, c'est une auteure chaudefonnière qui est née en 1923 et qui est décédée en 1998 et qui a eu une œuvre assez clairsemée mais qui a marqué quand même le monde littéraire roman. Elle a écrit donc 2 romans et 2 textes courts et on a retrouvé il y a quelques années un inédit posthume qui s'appelle « Vivre près des tilleuls ». Sauf qu'en fait... La révélation, c'est que cet inédit posthume a été écrit par Lajar et que Esther Montandon est une création pure de Lajar.
Alors, on va revenir, je crois, on en saura peut-être plus en détail sur la vie et l'œuvre d'Esther Montandon, mais comment est-ce que l'idée est née d'écrire un roman collectif et comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est quand même un phénomène assez rare. De l'écriture collective, il y en a, vous l'avez déjà pratiqué, mais de là à faire tout un livre, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que l'idée est née de faire un roman? Vincent?
Volontiers. il faut savoir que l'idée n'était pas de faire un roman directement, ce n'était pas l'idée de base. L'idée, c'était de créer une auteure. Et puis, le roman est venu comme un peu une sorte d'épiphénomène à toute une sorte de création autour d'Esther Montandon. C'est finalement la dernière chose qui a été créée en rapport à Esther Montandon. C'est-à-dire qu'elle a eu, avant d'avoir un roman, elle a eu une vie, une biographie, des objets, toutes sortes d'événements autour de son œuvre, qui finalement sont concrétisés dans un roman, mais c'était plus une sorte de hasard qu'une volonté délibérée et concertée d'écrire le roman d'une auteure qui n'existe pas, même si justement maintenant elle existe.
Mais pourquoi, dans le paysage, riche paysage littéraire roman, créer de toute pièce un auteur? Une idée là-dessus, Sébastien?
Il y a une réponse qui est extrêmement factuelle à ça, c'est que nous avons participé il y a 2 ans maintenant à un festival au Québec qui s'appelle le Festival Québec en toutes lettres et dont le thème était double et pseudo. Donc on a eu l'idée de faire un canular, donc d'inventer une auteure, puis de lui inventer un inédit posthume. Donc, en fait, tout est parti de là, tout est parti de cette idée. On n'avait pas forcément non plus l'envie de créer une auteure à la base. Et pour participer à ça, on a fait naître Esther Montandon, puis son livre. Et voilà, ça a donné ça.
Quand j'ai appris l'existence d'Esther Montandon, il y a peut-être à peu près à cette époque-là, moi, j'étais très admirative du nom. Esther Montandon, c'est un vrai nom d'auteur roman des années 60. Elle est née à Chaux-de-Fonds, comme... aidez-moi. Grand auteur de la Chaux-de-Fonds, la femme. Enfin, j'ai un blanc. Mais elle est de cette génération de femmes qui ont un peu renouvelé la littérature romande. Vivre près des tilleuls, c'est aussi peut-être comme un concentré de ce qu'on pourrait imaginer la littérature romande. Alors, comment déjà vous l'avez appelée Esther Montandon? Comment c'est né?
Oui, il y avait eu... il me semble qu'on avait dû inventer Esther relativement dans l'urgence pour pouvoir prendre part au Festival québécois, puisque c'était une sélection sur dossier, donc il y a eu quelques réunions improvisées, et puis quand l'idée a surgi d'avoir ce double niveau, une auteure cachée par un faux inédit posthume à présenter au public québécois, il lui fallait un nom, et je ne sais pas comment, au cours de la discussion a surgi Esther Montandon.
Oui, d'ailleurs, vous en expliquez un peu de tous les prénoms que vous avez évoqués pour la baptiser. En fait, je veux vous féliciter là-dessus. Tout ça était extraordinairement crédible. Vous lui avez donné donc tout un appareil, œuvre publiée, etc. Maintenant, de là à lui offrir un roman posthume, il y a quand même un pas. Comment est-ce que vous avez fabriqué Vivre près des tilleuls?
Donc l'idée à la base était d'avoir que quelques extraits. Il y a quelques extraits de ces autres livres qui existent. Donc on pensait aussi d'écrire que quelques extraits de l'inédit posthume. Et puis finalement, on s'est dit non, on va l'écrire en entier. Et donc il y a eu une séance d'écriture planifiée un soir d'été chez l'une d'entre nous. Et puis il y a une petite équipe qui s'est réunie et qui a... En fait, juste avant ça, il y avait eu, disons, une petite équipe. On fonctionne toujours par... équipe de 2 ou 3 pour chaque partie du projet. Il y avait une équipe qui s'occupait d'élaborer sa biographie, une équipe qui s'occupait de chercher des objets qui lui avaient appartenu, et puis une équipe qui s'est occupée de juste faire un synopsis de Vivre près des tilleuls, et puis d'établir une liste des fragments possibles. Et puis cette première nuit, chaque personne présente s'est emparée d'un ou plusieurs fragments, écrit pendant une certaine durée. Après, les gens se les lisaient, continuaient. Ça, c'était la base. Et ensuite, les gens qui n'étaient pas présents, comme moi, on a participé après coup, en écrivant des fragments. Puis tout ça, ça a été mis ensemble, et ça s'est vraiment fait par strates superposées. toujours par petits groupes, plus ou moins petits, ça dépend des séances et du nombre de bières. Et puis, finalement, par strates superposées, ça fait qu'on ne peut plus tellement dire « moi j'ai écrit ça, toi t'as écrit ça », puisque tout a toujours été retravaillé plusieurs fois. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de délagages, en fait.
Mais quand vous êtes allé au Québec, le texte n'existait pas encore, les tilleuls.
Si.
Et à quel stade est-ce que vous avez révélé au public québécois que Esther Montandon était une création ? Julie ?
Donc le projet principal, c'était de monter une exposition là-bas. Donc pendant 4-5 jours, les personnes ont pu venir admirer. Il y avait des photographies d'Esther Montandon, il y avait ses partitions de piano qu'elle utilisait quand elle était enfant, il y avait un poalet du Rwanda qu'elle avait ramené de son enfance en Afrique. Et donc nous, on avait donné des visites guidées pour expliquer toute cette vie. Donc là, on était vraiment sur la base zéro du canular où on y allait franchement. Et à la toute fin du festival, en fait, donc au bout d'une semaine, on a donné une performance où on commençait par lire justement les extraits de textes d'Esther Montandon. Et petit à petit, on a commencé à détruire les objets, à déchirer ses livres, à étaler ses objets. Et c'est comme ça qu'en fait, le public a découvert que tout était un faux, en fait.
Et comment est-ce qu'il a réagi ?
Très diversement. Il y a eu des gens emballés qu'on trouvait l'idée magnifique. Il y a en fait eu beaucoup de déceptions aussi parce que Esther est un personnage très très attachant. Vraiment, on s'est rendu compte. Les gens étaient très très touchés par sa vie, par son œuvre. Il y a aussi des femmes d'un certain âge qui nous ont dit qu'elles se retrouvaient vraiment dans ce parcours. Donc pour nous, en fait, ça a été presque un peu lourd à porter parce qu'on était déçus de les décevoir. Parce que vraiment, les gens nous demandaient mais pourquoi ces œuvres sont pas rééditées ? Il faudrait qu'on fasse un partenariat avec le Québec pour faire ressortir ces œuvres. Et nous, plus ça avançait, plus on se décomposait parce qu'on savait pas très bien comment répondre à tellement d'enthousiasme, en fait.
Mais il y a une chose que je comprends pas. Vous avez présenté des livres d'Esther Montandon ? Mais ils n'existaient pas. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez fait ?
En fait, on s'est contenté de faire la couverture.
Personne ne les feuilletait ?
Quelques passages. Non, ils étaient en vitrine. Et donc, on a été à l'atelier du Cadratin à Vevey et on a fait dans cet atelier de typographie des vieilles couvertures sur un papier crédible qui existait dans les années où Esther écrivait. Et donc, on a refait des couvertures, qu'ensuite on a un peu froissé et tout ça, puis on a mis ses livres en vitrine. Et une des raisons de l'écriture de Vivre près des tilleuls, c'est justement qu'on s'est dit, même si tous les livres sont en vitrine, il n'y a personne qui va y croire à cette affaire. Il faut qu'il y ait un livre que les gens peuvent feuilleter. Oui. D'où Vivre près des tilleuls, celui qu'on a écrit vraiment.
Mais qui alors n'était pas publié comme aujourd'hui par Flammarion, mais qui était sous l'étiquette d'un autre éditeur.
Oui, on a poussé le truc suffisamment loin. En fait, on a copié la maquette d'une maison d'édition suisse romande et on a fait un faux, avec l'accord de l'éditeur, on l'a prévu. on lui a demandé, il était d'accord et tout ça, et on en a fait imprimer 25 exemplaires que les gens pouvaient feuilleter et puis regarder. Donc le livre existait, à partir du moment où le livre existait, l'auteur devait exister. C'était logique. Donc c'était vraiment ce livre, son existence physique, pas seulement théorique, c'était la preuve de l'existence d'Esther Montandon, et quelque part ça l'est toujours.
Si vous trouvez cette édition, vendez-la très cher.
Mais l'éditeur roman n'a pas souhaité alors diffuser Vivre près des tilleuls ?
Non, mais il ne l'a pas édité vraiment. En fait.
Oui, non, je comprends bien, mais il n'aurait pas voulu le faire du coup ?
Non.
Devant l'enthousiasme
Non, non.
Il a raté un coup, là.
Ouais, peut-être. Tant pis.
À voir le... Bien, alors, pour comprendre peut-être l'émotion aussi du public québécois devant la destinée d'Esther Montandon, il faudrait peut-être rappeler ce qu'il y a à l'origine de Vivre près des tilleuls, rappeler aussi en quoi consiste cet ouvrage posthume et pourquoi il est resté posthume. Qui veut nous parler de Vivre près des tilleuls ?
Oui, c'est un ouvrage qui intervient après un long silence d'Esther Montandon, d'une dizaine d'années, après un événement tragique qui est arrivé, à savoir la perte d'un enfant. Et c'est la reprise de plume d'Esther Montandon. Donc, Vivre près des tilleuls se justifie aussi par un aspect, enfin, la thématique abordée justifie par l'aspect pratique d'une reprise de plume à ce moment donné, ce qui explique ce trou bibliographique dans la destinée littéraire d'Esther Montandon.
Alors, on va quand même dire ce qui s'est passé, non ?
Oui.
Alors, je peux le faire peut-être. Esther Montandon, femme mariée avec une œuvre, a beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Elle l'a relativement tard dans sa vie. C'est un grand bonheur. Et à l'âge de 4 ans, il y a un accident et cet enfant meurt. Alors, c'était donné quand même. Alors, d'abord, pourquoi lui donner une biographie aussi lourde et vous obliger finalement à écrire un livre de deuil, vous ? Comment est-ce que vous avez tricoté votre histoire pour avoir envie de l'écrire ? Parce que c'est pas votre génération du tout, évidemment. Ça peut être intéressant d'écrire un livre des années 60, je comprends. Vous avez peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, mais je pense personne n'en a perdu. Enfin, c'est très loin de toute votre expérience. Est-ce que c'était ça que vous vouliez ?
Il y a quelque chose de très étrange avec la jarre, c'est qu'il y a des choses qui se font et après on n'arrive plus à dire pourquoi et qui l'a fait. Donc personnellement, j'ai appris qu'Esther avait perdu son enfant et qu'elle avait écrit ses fragments. Et j'ai, comme tout ce qui a trait à Esther, une fois que ça existe, je ne sais pas, c'est pas remis en question. C'est-à-dire que c'est au fond... Plus tard, bien sûr, on savait de quoi on parlait puisqu'on l'a écrit, mais c'est surtout au moment de la discussion avec les éditrices qu'on a discuté de ce sujet très très grave et puis aussi peut-être des réactions vives que ça pouvait provoquer chez des gens qui l'ont vécu alors que nous sommes des jeunes auteurs qui n'avons jamais vécu ça. Donc mais au fond, on s'est rendu compte qu'on l'avait fait avec beaucoup de respect. Et parce que, voilà, dès le début, il y a eu cette magie Esther qui fait qu'on s'est attaché à elle et qu'on l'a écrit vraiment en respectant et en aimant ce personnage et en y mettant d'une autre. Voilà. Maintenant, pourquoi ce deuil affreux ? Il y avait cette raison pratique, un peu terre-à-terre, de dire il faut qu'elle ait eu un événement terrible qui l'empêche d'écrire. Pendant un moment, que la jarre puisse s'infiltrer dans ce trou bibliographique. Donc, il fallait un événement grave. Et puis, voilà, comme je vous dis, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est cet événement-là qui a émergé, mais une fois qu'il était là, il était là.
Et au cours de l'écriture, ça vous a pas gêné, par exemple, de parler du deuil de cette femme ? Vous étiez très en empathie avec elle, du coup ?
Oui, complètement. Mais après, je crois que le fait qu'on soit 18, ça nous a permis de faire ça. Moi, j'aurais jamais osé aborder ce sujet-là tout seul. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Et là, vu qu'on était tous ensemble et puis qu'il y avait toutes ces sensibilités réunies autour de ce même sujet, il y avait presque une forme de... C'est pas qu'on s'entraînait là-dedans, mais quelque part, on pouvait... Ah, comment dire ça ? Il y avait toujours une pudeur, mais dont l'autre était garant lui aussi. Donc tant qu'on était dans la certitude que celui d'en face ou celle d'en face était juste elle aussi dans son rapport à ça, il y avait un point commun qui paraissait sensé. On n'avait pas l'impression de mettre les pieds dans le plat ou d'être à côté. Et on a toujours cherché, que ce soit dans l'écriture ou dans les réécritures qui ont suivi, les corrections et tout ça, une forme de simplicité. D'être au plus proche de quelque chose de très bref, de très sec, d'éviter le pathos, justement. Donc ces 18 sensibilités ont permis de circonscrire quelque part ce sujet.
Vous êtes tous relativement jeunes, vous avez tous, disons, en tout cas moins de 40 ans, 35 ans, c'est un peu l'âge limite pour entrer à la jarre. Donc... Vous avez des références, des lectures, une pratique de l'écriture qui sont évidemment très différentes de celle d'une dame des années 60. Vous avez, est-ce que vous êtes documenté un peu sur l'époque ? Vous avez lu des livres ? Je pensais tout à l'heure, le nom m'échappait, Monique Saint-Hélier. À un moment, elle fait référence à Catherine Colomb, enfin, aux auteurs de cette époque. Est-ce que vous y avez pensé à la cohérence avec l'époque? Parce que ça marche dans votre livre.
Moi, j'ai l'impression que c'était finalement très variable pour les membres de l'AJAR. Certains avaient le besoin d'aller compulser des ouvrages d'époque, etc. D'autres se sont davantage appuyés sur leur imagination. Et puis, la réunion du tout, finalement, faisait que ça tenait. Mais il y avait aussi quand même un groupe chargé de réfléchir à ce que pouvait être un peu son style et d'écrire les fragments des œuvres, des autres œuvres d'Esther. Donc, quand on est arrivé à la séance d'écriture, c'est vrai qu'il y avait déjà des présupposés qui nous permettaient de nous appuyer sur quelque chose de concret. Et puis ensuite, le fait qu'on écrive le socle du texte ensemble a offert une uniformité qu'il n'y aurait peut-être pas eu si on avait livré chacun un chapitre, puisque là, l'idée était vraiment d'avoir simplement des fragments, même si nous, on était dans une démarche romanesque. Il ne faut pas oublier que Esther elle-même est dans une forme, même pas de journal, mais d'éclatement, enfin, d'écriture fragmentaire. Et c'est aussi ça, je pense, qui a aidé à pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'était responsable de l'intégralité de ce deuil, finalement. On l'abordait uniquement par un point de vue, c'est-à-dire aller acheter des fleurs ou bien s'autoriser un sourire. Enfin, chacun est allé chercher vraiment ce qu'il faisait vibrer, et c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu ces 18 facettes différentes qu'on a pu approcher le problème de manière globale.
Ce qui veut dire aussi, momentanément, l'abandon de vos égos d'écrivain à chacun. Est-ce que c'était facile?
Oui, je pense que c'est un processus auquel on est relativement habitué par les activités de l'AJAR. C'est une chose à laquelle on a renoncé depuis longtemps, dans le cadre de l'AJAR, bien sûr.
C'est ça. Ce qui est troublant de l'extérieur, c'est cette dynamique entre vos œuvres individuelles et puis votre travail collectif. Vous dites, d'ailleurs, dans la postface, la fiction n'est pas le contraire du réel. L'AJAR, c'est-à-dire l'infiniment plus que moi, le tellement plus que nous, a étouffé toute tentative de résistance individuelle. Hein ? Et ce que vous disiez, elle a pris sur elle le fardeau de l'angoisse. Donc, c'était quand même, j'imagine, pour chacun d'entre vous, une interrogation justement sur le rapport de la fiction à la réalité. Parce que plusieurs de vos livres, comme c'est des premiers livres, ont souvent un rapport assez immédiat avec ce que vous avez vécu. Là, ça vous faisait faire prendre une grande distance.
Mathieu ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a des manières d'écrire très différentes, en tout cas en ce qui me concerne, si j'écris un texte seul ou avec l'AJAR. Et puis finalement, certes, il y a Esther Montandon a vécu au XXe siècle une vie totalement différente de la nôtre, mais maintenant, si on examine chacun des fragments, on va sûrement retrouver beaucoup de pas d'événements, mais de choses, d'émotions, de points de vue qui proviennent des vies de chacune et chacun des membres de l'AJAR. Donc, je pense que oui, à première vue, ça a l'air tellement éloigné de nous, mais enfin, c'est quand même nous. c'est l'AJAR qui... Enfin, c'est pas nous, justement, c'est l'AJAR. Et quand on dit c'est plus que moi et plus que nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on écrit un texte ou un bout de texte et on sait qu'il va être récupéré par cette entité qui est l'AJAR. Et donc, on ose plus, en fait, aussi. C'est pour ça que Sébastien disait « J'aurais jamais osé m'attaquer à un sujet comme ça tout seul. » Moi, c'est exactement pareil. Mais quand c'est l'AJAR, je me dis « Bon, OK, allons-y, j'essaye. » Et ensuite, je sais que ça va. Il y aurait cette espèce de filet qui n'est pas un filet de sécurité, mais un filet plutôt d'audace derrière qui va reprendre ça et en faire quelque chose de bien. Puisque je pense que la plupart des choses que fait l'AJAR, comment dire, ses membres apprécient la plupart des choses que fait l'AJAR.
Alors, revenons au Québec. Vous avez détruit la documentation autour d'Esther Montandon dans un geste sacrificiel. Vous revenez en Suisse, vous avez vivre près des tilleuls en maquette. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous considérez que c'est un épisode terminé ou comment est-ce qu'elle continue alors à arriver à ce qui se passe aujourd'hui?
Bon, d'une part, en rentrant du Québec, on était quand même persuadés qu'Esther Montandon était un personnage qui nous tenait à cœur. Donc, on a continué de la faire vivre dans divers événements. On a fait, par exemple, une balade à vélo à La Chaux-de-Fonds sur les traces de son enfance, en allant un peu montrer les lieux symboliques de sa vie à La Chaux-de-Fonds. On a fait aussi une performance mise en scène au 2-21 et puis au théâtre des Trois Petits Tours. Et d'une autre part, c'est plutôt le hasard des rencontres qui arrive de manière un peu magique comme ça dans la vie. C'est qu'on avait ce manuscrit et un de nos membres faisait partie du même jury d'écriture que Anna Pavlovitch, la directrice de Flammarion. Et comme pour nous, c'était bien sûr une aventure qui nous habitait et dont on aimait parler, parce que ça faisait partie de notre quotidien, il lui a gentiment tendu le livre. Et ça, c'est elle qui le raconte après coup, qu'elle l'a lu sur le chemin du retour en train et qu'elle a en fait apprécié la qualité du texte, qu'elle a apprécié aussi la démarche. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle l'a soumis au comité de lecture de Flammarion et que tout s'est enchaîné en fait assez vite.
Alors là, il y a quand même un détail à rappeler, c'est que vous appelez l'AJAR, Association des jeunes auteurs, romans des romans, ça c'est clair. Mais AJAR, c'est aussi autre chose. AJAR, c'est quand même le pseudonyme de Romain Gary. Donc, Romain Gary gagne le Goncourt deux fois, une fois sous le nom d'Émile AJAR, et il présente son neveu Paul Pavlovitch comme étant AJAR. Hein ? Bon, alors, je pense que Madame Pavlovitch, quand elle entend l'AJAR, elle se dit papa.
Hein ? Ce qu'elle nous a dit, c'est que, en fait, pour elle, ça a eu un effet très irritant, parce qu'elle a vécu avec cette histoire qu'elle ne considère pas comme la sienne. C'est vrai qu'on lui a tellement parlé de Émile AJAR, du rôle joué par son père, et qu'elle avait comme des écoutilles qui se refermaient quand le nom lui était évoqué. Donc ça aurait pu aussi jouer en notre défaveur. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment les hasards de la vie qu'on ne maîtrise pas du tout, que notre nom, qui à la base est aussi un acronyme, soit si proche de cette histoire-là. C'est...
Quand vous avez construit l'acronyme de l'AJAR, est-ce que vous avez pensé au clin d'œil à AJAR, au double, à l'idée d'une personnalité multiple ou pas du tout ?
On a fait bien sûr le lien, et puis comme c'est un écrivain la plupart avaient lu et apprécié, c'est vrai que ça nous plaisait, en plus qu'il y ait quand même un clin d'œil littéraire forcément, mais c'est vrai que c'était pas prédestiné à être l'AJAR, disons, à se spécifier dans les canulars littéraires, pas du tout.
Mais alors, pour le comité de lecture de Flammarion, le livre leur a été présenté comme l'œuvre d'un collectif ou comme l'œuvre d'un auteur suisse romande des années 60 ? Sébastien ?
Quand elle est arrivée à Paris, elle avait donc lu ce livre et elle a décidé de le présenter au comité de lecture en aveugle. C'est-à-dire que personne ne savait quel auteur était derrière ça, ni Esther Montandon, ni l'AJAR, ni personne. Et le livre apparemment fait l'unanimité au sein du comité et personne n'a vu venir le collectif. La seule personne qui a eu un doute, puis qui s'est dit « bizarre ce truc », c'est notre éditrice actuelle, Alix, qui s'est dit « ça c'est un truc, c'est un auteur de chez nous qui a déjà publié 10 bouquins et qui essaie de nous surprendre ». Voilà, personne n'avait vu venir le collectif.
Donc le livre les a séduits indépendamment de son histoire.
Oui.
Parce que c'est vrai, moi, qu'il ait lu avec son histoire, j'ai beaucoup de peine à m'en dégager. Et c'est très intéressant de savoir que c'est un livre qu'on peut lire en tant que tel. Alors maintenant, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on va le publier comme un livre d'Esther Montandon, auteur suisse trop méconnu, hélas, et ou comme votre... comment ça s'est décidé ? Vous savez pas pourquoi, comment vous
Je peux peut-être répondre. Donc, on s'est posé la question dès que... elle a voulu nous publier. du canular, puisque est-ce qu'on essaie de publier ce livre sous le nom d'Esther Montandon? L'éditrice était assez clairement contre dès le début, pour plusieurs raisons. D'abord, elle pensait que ça ne marcherait pas du tout, qu'on ne pouvait pas refaire un canular du type Gary Ajar aujourd'hui, notamment à cause des innombrables canaux de communication et des fuites possibles. Mais surtout, la raison principale est qu'on a adopté, qu'on a adopté très vite, en fond, après justement l'épisode du canular au Québec, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant d'avancer à visage découvert, et ça intéressait beaucoup plus les gens. Et c'était aussi beaucoup plus... finalement, le canular, ça nous a amusés, mais ce qui nous importe, c'est d'écrire à plusieurs et de le faire connaître, de le faire savoir. Et donc, c'était beaucoup plus en phase, en fait, avec ce qu'est l'Ajar, de montrer que c'est un livre écrit par un collectif. Et puis, c'est devenu... une sorte de déclaration d'amour à la fiction, à la littérature, en avançant à visage découvert, plutôt qu'une sorte de gag, qui pouvait être un mauvais gag aussi, justement par rapport à la gravité du sujet et aux gens qui avaient vraiment vécu cette situation.
Oui, je trouve que c'est vraiment une question vertigineuse de savoir si ce livre peut se passer de son histoire ou pas. C'est très troublant. Est-ce que vous avez l'intention de créer d'autres œuvres collectives de ce type ?
Ouais, c'est difficile d'y répondre immédiatement. D'autres œuvres collectives, oui. On fait ça tous les jours, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais d'autres œuvres d'Esther Montandon, on ne sait pas encore. La question se pose peut-être, mais on n'a pas pris de décision tranchée dans ce sens. Mais pour ce qui est de la création collective, je ne vois pas de raison qui justifierait le fait qu'on s'arrête maintenant.
Flammarion décide de publier Vivre près des tilleuls à la rentrée. Il y a Amélie Nothomb, il y a il y a vous. Quand on a le livret de Flammarion, ça fait un drôle d'effet de voir que l'Ajar est... Exactement au même titre, d'ailleurs. Il n'y a pas d'accent particulier mis sur l'œuvre. C'est chacun sa page. Et puis, y a ce côté très troublant. Donc vous avez joué ce jeu-là. Vous êtes allé à Paris. Vous avez vu les libraires. Vous avez vu la presse. Vous êtes allés tous. C'était comment? C'est comment votre vie médiatique d'auteur?
Non, alors, Flammarion organise évidemment la médiatisation de sa rentrée de manière particulière, avec des présentations dédiées aux libraires. Alors, on a fait cet exercice plusieurs fois, qui est assez impressionnant quand on rentre devant 200 professionnels et qu'on est là pour 10 minutes. On a intérêt à séduire, sinon on a un peu l'impression qu'on a joué notre dernière carte.
Vous étiez tous ?
Là, on était 16. Il y en avait deux qui ne pouvaient pas venir pour des raisons professionnelles. Et puis ensuite, on se répartit, en fait. Comme aujourd'hui, on va par groupe de 2, 3, 4. Enfin, ça dépend des besoins, des distances, des envies. Le but, c'est que personne se force, puisque avec toute la gravité qu'on a pu déjà évoquer dans le thème du livre, il faut qu'on soit sincère au maximum. Donc si on est simplement là par pur marketing, je pense que ça se verrait, ce serait pas le but. D'ailleurs, il y avait une grande émotion, sans fausse modestie, il y avait quand même une grande émotion. Il y a 2-3 personnes qui pleuraient pendant la présentation à Paris, parce que le sujet fait que des fois ça peut toucher des choses très personnelles. Et nous aussi, on était surpris d'ailleurs de cette réaction, parce que faudrait aussi dire que le livre a l'air grave, mais c'est pas seulement un livre de deuil, c'est aussi un retour vers l'écriture, c'est aussi un retour vers la vie, et pas seulement la mort d'une enfant ressassée sur 100 et quelques pages.
Elle n'est pas d'ailleurs sans une certaine ironie et sans un certain humour, Esther Montandon. Tout à fait. Ensuite, le livre paraît, là, il est... Là, maintenant, la question de la postface, elle est venue comment ?
Je crois qu'elle est venue de Flammarion, qui a voulu qu'on ait une postface pour expliquer un peu la démarche, le livre lui-même, qui est l'Ajar et tout ça. Et puis ça, ça a été dur à écrire. On a eu beaucoup de peine à trouver en fait le moyen de raconter cette histoire-là sans rentrer dans trop de détails, sans créer tout d'un coup une histoire unique qui serait à laquelle tous les membres de la JAR devraient se référer, parce qu'on a, en étant 18, on a aussi 18 histoires différentes de ce livre. On n'a pas tous vécu la même chose. Certains n'étaient pas à Québec, d'autres n'étaient pas à la séance d'écriture, d'autres n'étaient pas à Paris. Donc on a vraiment tous une histoire différente. Donc ça a été extrêmement dur de trouver le ton juste, les informations qu'on voulait mettre, qu'est-ce qu'on voulait mettre, et puis de ne pas tomber dans la justification, dans l'explication, en disant « Désolé, on a fait ça ». Mais comme d'habitude, le miracle Ajar a opéré, et puis il a suffi d'une réunion où nous étions tous là, c'était un record, et d'une longue discussion, et finalement, on a, voilà, la chose est arrivée, la postface est arrivée.
La postface est très intéressante, je pense qu'elle est très utile aussi par rapport au livre, et elle dit beaucoup sur votre rapport à l'écriture. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous, comme ça, vous êtes ici 5 écrivains, il y en a d'autres dans la salle, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, que votre rapport à votre écriture individuelle a été modifié par cette aventure ?
Je pense que tout le monde peut répondre oui. Ce serait un peu bête de prétendre le contraire. Maintenant,
Par exemple, pour vous, dans quelle mesure ?
C'est difficile pour moi, d'autant plus que je n'écris pas de textes très longs. Donc, c'est difficile à dire, mais est-ce que c'est l'aventure Esther Montandon qui fait changer notre rapport à l'écriture à tous, ou est-ce que c'est simplement le fait de justement avoir su se fédérer sous la forme du collectif ? Je pense que c'est les deux. C'est difficile pour de trancher, de distinguer quels éléments sont apportés simplement par la pratique collective et ou par le vif près des tilleuls.
Je vais juste ajouter que justement, enfin, c'est vrai que tout à coup, il y a un écho médiatique très fort, un écho aussi d'électrices et lecteurs, ce qui est merveilleux, autour de ce livre, mais que la JAR existe depuis 4 ans et demi, et donc du coup, c'est maintenant, ça commence à devenir une histoire pas longue, mais enfin, quand même respectable, d'amitié et de connivence, et donc, pour moi, c'est vraiment c'est toute l'aventure à JAR qui a profondément influencé ma manière d'écrire, d'être dans cette pratique d'écriture. Et puis Esther Montandon, c'est le projet le plus important de la JAR, clairement, au niveau du temps qu'on y a passé, etc., et de l'écho. Mais c'est quand même un des projets, donc il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est difficile de faire la distinction, tout est vraiment lié. Je ne sais pas si Sébastien voulait ajouter.
Dans ma pratique d'écrivain solitaire, moi, c'est vraiment l'expérience Ajar dans sa globalité qui fait évoluer les choses. Et puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'absence d'ego au moment de l'écriture collective qui, je trouve, est assez formidable. Parce qu'une absence d'ego, ça veut aussi dire une présence de confiance. C'est pas juste, on a décidé de, c'est bon, ça s'arrête. C'est qu'on est en confiance entre les gens, donc réussir à écrire dans ce confort-là, en ayant confiance en ceux qui nous lisent, en ayant confiance en ceux qui transforment ce qu'on écrit et en ce qu'ils écrivent eux aussi, ça c'est quelque chose d'absolument inouï qui, dans la pratique solitaire, revient en disant « Ah, il y a quelque chose qui détend, vraiment ». Après, c'est l'expérience vivre près des tilleuls, pour moi, elle est très enrichissante, mais plus dans tout l'aspect justement commercial de la vie d'un écrivain, et ses tournées à Paris, la présence médiatique, le travail avec une grande maison d'édition, et tout ça a aussi beaucoup nourri ma pratique professionnelle, quelque part, et commerciale de l'écriture. Dire, bon, voilà, c'est à ça qu'on fait face quand on est un écrivain publié à Paris. Ça veut dire ça, ça veut dire aussi voilà, apprendre à parler en public, ça veut dire apprendre à parler à des journalistes, ça veut dire apprendre tout ça, et là, je trouve que Vivre près des tilleuls, pour ça, c'est un apprentissage en accéléré, qu'on peut faire à 18, ce qui est assez formidable, ce qui évite les crises d'angoisse monstrueuses, parce qu'à nouveau, on est entouré de gens en qui on a confiance et par cette amitié.
Julie ?
Je voulais peut-être aussi ajouter pour donc l'enrichissement, c'est bon, c'est toute une atmosphère qui nous entoure depuis 4 ans, mais c'est aussi, je trouve concrètement, énormément de discussions sur la littérature. Et puis, par exemple, pour vivre près des tilleuls, ça a été des heures et des heures de travail, de retravail sur le texte. Et puis moi, ce que j'ai trouvé très enrichissant, c'est de confronter les différentes manières de concevoir un retravail. Où est-ce qu'on met l'accent ? Pour certains, c'est les virgules qui peuvent être changées. Pour d'autres, c'est l'appui sur les sonorités de certains mots entre eux. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a 18 manières de voir un texte. Et puis, quand on le retravaille, on s'enrichit beaucoup de tout ça. Et dans la pratique personnelle, c'est aussi de se dire « Ah, mais... qu'est-ce que penserait la jarre de tel passage ? Ah ben oui, lui dirait ci, elle dirait ça, et puis c'est très riche. »
Guy qui écrit dans un registre totalement différent d'Esther Montandon, ça a eu un effet ?
Paradoxalement, je dirais que c'est plus facile d'écrire à 18 que d'écrire tout seul. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que seul, voilà, on croit au projet, on ne croit plus au projet, on ne sait plus où on en est. Là, d'un seul coup, effectivement, il y a ce climat de confiance. Quand on a moins d'énergie, il y a toujours d'autres énergies qui viennent, ce qui fait que le projet avance tout seul, en fait. On n'est pas en train de se poser 1000 questions, et puis si on s'en pose, on en parle. Alors que tout seul, c'est toujours difficile, parce qu'il faudrait expliquer tellement de détails pour arriver à une exhaustivité qui permettrait d'avoir un avis. Maintenant, pour autant, on échange et on soumet des textes, et voilà, et ça nourrit aussi l'écriture. Mais je trouve presque plus intéressant, en tout cas dans ma vision des choses, d'avancer sur les projets collectifs que d'avancer sur mes projets individuels. Il y a quelque chose qui s'est... Enfin, forcément, que l'envie d'écrire est là depuis très longtemps chez moi, comme chez tous mes camarades, je pense, mais j'ai presque l'impression que quelque chose s'est brisé en route, je ne sais pas comment le dire, dans l'élan individuel, parce qu'en même temps, c'est tellement enrichissant en termes d'échange, cette pratique collective, que ça m'intéresse plus que ma carrière personnelle, je crois.
Personne ne s'est senti gêné dans son travail personnel par le travail collectif.
Ce que Guy disait tout à l'heure par rapport à la promo, c'est que personne ne doit se forcer. Et au sein du travail collectif d'écriture, c'est la même chose. Personne ne doit se forcer. Donc si, par exemple, quelqu'un a un travail très important, un travail individuel en cours et qu'il n'a pas le temps pour la jarre, il ne vient pas à la jarre. Et ça pose de problème à personne. Donc on vient quand on veut, quand on a de l'énergie à mettre à disposition, ce qui permet aussi d'avoir, justement, au sein du groupe, toujours une forme d'énergie positive. Parce que ceux qui viennent dans les réunions, qui viennent participer au projet, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Parce qu'ils ont le temps et parce qu'ils ont l'énergie. Donc il n'y a pas de mauvaise énergie. Ça me fait chier de faire ce projet. Tout ça, ça n'existe pas. Ce qui est assez formidable.
Ouais. Dans le public, il y a encore en tout cas, j'identifie deux membres de la jarre. Daniel Vouette à Haute-Seigne, peut-être d'autres, je ne sais pas.
Il y a Noémie
Chaud, mais que je n'ai jamais rencontrée. Bonjour. Je sais pas, est-ce que les membres de la jarre dans le public souhaitent ajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit là maintenant ?
Que quoi ?
Bon, si c'est pas le cas tout de suite, peut-être après, mais peut-être par contre, vous public, vous avez envie de demander des choses aux 5, 7, 7, 8 auteurs qui sont présents sur cette expérience quand même très singulière. Quelqu'un aimerait intervenir ?
On est impressionnant, on est presque aussi nombreux qu'eux, c'est pour ça.
Oui, c'est ça, c'est très... Madame, est-ce que...
Je suis impressionnée, en effet.
Attendez, oui.
Je n'ai qu'une envie, c'est de lire ce livre tout bientôt.
Ça, c'est facile.
Oui, de découvrir chacun des auteurs qui sont là, après Percussion de Mathieu Ruff, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un magnifique moment que j'ai vécu ici autour de cette aventure, je dirais.
Monsieur ?
Quel est l'avenir que vous prévoyez à la jarre ?
Éternel.
Oui, c'est ça. Alors, vous êtes 18, mais l'entrée est libre ?
C'est gratuit.
C'est pas tout à fait gratuit, il y a une cotisation. Non, les projets de l'Ajar dans l'immédiat, en tout cas, c'est d'être présent à la Biennale d'architecture de Venise. Après, pour ce qui est du... Parce qu'on a été invité là-bas. L'Ajar mène à tout, mais enfin... Et après, pour ce qui est des projets collectifs, on sait qu'on va faire une collaboration avec la Comédie Musicale Improvisée, qui est un groupe de jeunes qui font de la Comédie Musicale Improvisée. Je ne serais pas capable de faire ça, mais... Enfin... Et puis sinon, bah, y aura forcément des projets collectifs, comme le disait Vincent. Lesquels, quand, comment, ça, c'est tout le plaisir de découvrir.
Alors, oui, vous avez un calendrier de manifestations. Je veux dire, il va y avoir pas mal de choses autour d'Esther Montandon, c'est sûr. Avec cette année, vous avez déjà une couverture médiatique tout à fait inhabituelle pour un auteur vivant. L'avantage de présenter un auteur mort.
Non, justement.
Finalement, c'était bien d'avoir un auteur mort, mais ce que je voulais dire, excusez, vous avez un calendrier important. Non, ce que je voulais dire, l'autre aussi, l'entrée libre et gratuite, c'est-à-dire, est-ce que vous allez accepter et recevoir d'autres membres?
Oui, et d'ailleurs, je trouve important de préciser, parce que dans les médias, et partout, on entend souvent 18 voix, 36 mains, mais en fait, c'est pas tout à fait juste, parce que l'Ajar est un collectif très mouvant. Au début du projet Esther Montandon, il y a des personnes qui étaient là en plus, qui sont parties de l'Ajar entre-temps, il y a d'autres membres qui nous ont rejoints, donc en fait, c'est un livre à une vingtaine de personnes, en fait. Et puis, ça nous tient quand même à cœur, justement, de pas rester figé, mais de continuer d'accepter aussi des nouveaux et des nouvelles membres. Mais donc, les critères qui, pour le moment, sont définis, c'est qu'il faut avoir moins de 35 ans mm-hmm. au moment de l'adhésion. Donc, ensuite, c'est aussi d'avoir... une même envie de participer à des projets collectifs. C'est aussi ça. On n'est pas une association d'écrivaines et d'écrivains. On est vraiment des gens qui voulons travailler ensemble. Donc ça, c'est peut-être le critère important pour les personnes qui veulent adhérer à l'Ajar.
Demain matin, vous donnez une performance, hein, ici, dans le cadre du livre sur les quais. Comment est-ce que ça se passe? Quel est le type de performance que vous faites?
Donc oui, demain c'est à 13h30.
Oui.
Et
ça d'ailleurs.
Au théâtre des trois petits tours. Ouais.
Et il paraît qu'il faut réserver.
Oui, c'est conseillé. On a. Oui.
Plein. Oui, voilà.
Comment ça se passe? C'est vrai que ça c'est depuis notre création qu'on a à cœur aussi de mêler peut-être les approches, donc d'avoir une approche aussi un peu plus théâtrale, un peu plus vivante qu'une lecture traditionnelle. Donc il y aura une mise en espace, il y aura un peu de musique, il y aura des effets visuels.
Des cascades.
Donc non, on espère que ce sera vivant. Sur Vivre près d'Étiol, oui.
C'est ça, oui. Une lecture de Vivre près d'Étiol, enfin, d'extrait de...
Oui, une mise en avant des textes, mais avec... voilà.
Vous en apprendrez plus sur Esther, oui. C'est...
Ouais. Donc ça, c'est demain 13h30, hein, vous m'avez dit. Et puis, bien sûr, dès maintenant, enfin, dès qu'on se sera séparés... Et sous la tente, vous pouvez faire le tour des auteurs en tant qu'auteur, en tant que membre de l'Ajar. Vous pouvez les traquer avec faire dédicacer Vivre près des tilleuls par le plus possible d'auteurs. Vous êtes tous là au livre sur les quais? Non. En fait, est-ce que vous avez tous des livres publiés? Pas forcément, ou bien? Pour faire partie de l'Ajar, il ne faut pas avoir publié déjà.
Non, justement, enfin, c'était un peu une des idées premières de l'Ajar. C'était comment pouvoir faire quelque chose de professionnel dans le milieu littéraire sans, comme le disait Guy tout à l'heure, avoir le premier roman publié. Donc là, maintenant, avec les 4 ans qui sont passés, effectivement, un bon nombre des membres ont fini par publier quelque chose en leur nom propre. Mais tout ça est noyé dans les nombreux projets de l'Ajar.
Certains d'entre vous, en tout cas Arthur Brugger, a fait l'Institut littéraire de Bienne. Aude aussi, non? Non.
Mathieu.
Oui, moi j'ai fait le master de l'Institut littéraire, oui.
Est-ce que avoir une formation professionnelle, une HES d'écriture, en fait, est important par rapport à l'AJA? Est-ce que pour vous, ça a été déterminant de faire l'école?
Enfin, oui, complètement déterminant, mais au même titre que l'AJA, enfin, c'est plutôt... il n'y a pas un rapport direct entre l'école et l'AJA. C'est ouais. plutôt... que grâce à l'école et grâce à la JAR, j'écris et puis je continue et je persévère. Mais voilà, c'est deux choses qui m'ont beaucoup nourri. Mais oui, les écoles d'écriture, c'est rien de très spécial. C'est une école d'art comme il en existe dans tous les arts, la musique, le théâtre, la peinture. Et on a moins l'habitude des écoles d'écriture, mais on ne nous apprend pas à mettre un sujet et un verbe l'un derrière l'autre. C'est simplement une période, là, c'était 2 ans, pendant laquelle on a un encadrement qui est très très bon. On a des écrivains qui nous lisent régulièrement, qui nous donnent des conseils. On a des ateliers où on discute de nos textes, un peu comme à la JAR. Donc c'est très stimulant et ça donne aussi des délais, ce qui dans mon cas est très important.
Pas tout à fait dans le même registre, mais est-ce que vous lisez les uns les autres vos travaux en cours et vous critiquez, Sébastien ?
Oui, on se lit pas mal les uns les autres. Alors, soit sous une forme un peu organisée qu'on appelle les salons. On organise des salons où chaque personne qui vient propose un texte assez court qui est lu par les autres et puis critiqué, discuté entre tous. Ou de manière plus informelle, quand on a un manuscrit terminé, ben, les membres de l'AJAR sont les premières personnes à qui on a envie de le faire lire.
C'est vous, un peu vos premiers lecteurs.
Oui.
Ah, ouais. Et enfin, la dernière question aussi, qui a agité un peu les milieux de Suisse romande récemment, c'est la question de la rémunération des auteurs. Quand un auteur est invité dans un salon, est-ce qu'il faut le payer? Est-ce que différemment... Alors, c'est une question, on va pas... Il y a eu d'infinis débats là-dessus, on ne va pas le régler maintenant. Mais quand vous êtes l'AJAR, est-ce que vous considérez qu'on doit vous rémunérer comme un auteur ou comme 18 auteurs?
Être rémunéré comme 18 auteurs, ce serait de la science-fiction. Faut pas rêver. Mais après, quand on fait des performances, là, ça paraît évident d'être rémunéré pour une prestation particulière. Mais l'AJAR est une association qu'on engage au même titre qu'une compagnie de théâtre, peu importe le nombre de comédiens, etc. Donc, c'est du cas par cas.
Oui, c'est quand vous faites des performances.
Pour les performances, il y a cette dynamique qui est plus proche de la compagnie théâtrale. Par rapport à Vivre près des Tilleuls, c'est l'association qui a signé le contrat avec Flammarion. Donc c'est l'association qui touche les droits et on ne sait pas encore ce qu'on va faire de l'argent. Mais ce sera réinvesti dans les projets de l'AJAR, probablement.
Voilà, on aurait une question, madame. Justement, encore une petite question. Chez qui publiait Esther Montandon quand elle publiait pas chez Flammarion?
Elle a publié aux éditions Rencontre.
Aux éditions de l'air.
Aux éditions de l'air.
Merci. Encore quelque chose? Bon, si vous me permettez, je vous dis, sous la tente, demain à 1h30. Et puis, je veux quand même peut-être annoncer une nouvelle, c'est que l'AJAR a reçu le prix d'encouragement, de promotion du prix Gottfried Keller, qui est remis par la Fondation Bonnemère pour un prix Gottfried Keller. Voilà, c'est un des plus vieux prix suisses. Il le partage avec un poète tessinois, mais il y a une partie qui revient à la Jarre. Voilà, ça sera remis au mois d'octobre. Alors voilà, longue vie à Esther Montandon, longue vie posthume, et à vous tous en tant qu'auteur.
Merci beaucoup.
En tant qu'auteur collectif.